Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel sont les têtes d'affiche de Rosalie au cinéma depuis le 10 avril, un film inspiré de l'histoire vraie de Clémence Delay, plus connue sous le nom de la femme à barbe. Ce n'est pas un biopic, mais plutôt un film romanesque, une réflexion sur la différence. Nous avons convié l'équipe du film à un question-réponse avec le public du club Allociné. Nous vous proposons de découvrir les échanges en compagnie de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto, Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel.
Moteur !
Parlons maintenant de cinéma.
C'est un scandale !
6, première.
Action !
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être là.
On est très honorés de vous recevoir et comme je le disais en présentant le film, deux Césars face à nous, deux Césars 2023. Alors avant de passer le micro dans le public, une première question toute simple sur votre première lecture du scénario et ce qui vous a touché le plus en lisant le scénario.
Ben moi j'étais très touchée par l'histoire dès la première lecture parce que c'est un personnage hors norme, mais en même temps, moi, je m'y suis identifiée. Ce destin de femme, je trouve que c'est un portrait magnifique. Voilà, elle voudrait vivre sa vie de femme comme elle le souhaite. Et je trouve que ça parlait de la liberté d'être qui on a envie d'être. Et je trouvais ça très actuel aussi. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée, cette histoire d'amour. Donc, j'ai même pas pensé, en fait, que j'allais avoir une barbe.
Pour ma part, je dirais que l'histoire d'amour m'a beaucoup touché aussi. J'étais frappé en fait par la résistance en fait de ce personnage. Il résiste tellement et c'est vrai qu'on a l'habitude dans les scénarios avec des histoires d'amour où on attend le moment où ils vont conclure. Et c'est vrai que ça me touchait de plus en plus quoi. J'étais très ému à la lecture. Donc c'est quand même pas mal quand on ressent des émotions en lisant un scénario. Et puis je crois que ce que disait ma camarade, c'est juste quand on s'identifie dès la première lecture, c'est que c'est plutôt bien parti, quoi. Voilà.
Alors la parole est à vous. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas à bien lever la main. Et si vous êtes encore un peu timide, j'ai plein de questions. Ah voilà, une première question sur la gauche.
Question pour Stéphanie. C'était pour savoir comment l'histoire était venue à vous et quelle liberté vous avez pu prendre par rapport à cette histoire.
Oui, en fait, je me suis inspirée d'une femme qui a existé début XXe siècle, qui s'appelle Clémentine Delay, une femme à barbe, on appelait une femme à barbe célèbre. Et en fait, quand j'ai vu ce visage de femme avec une barbe, il y a quelque chose qui m'a touchée. Moi, je la trouvais gracieuse, en tout cas. Et du coup, je me suis intéressée à elle. Et justement, ce que j'aimais, c'est qu'elle était représentée comme une femme, en fait, et pas justement comme une bête de foire. Mais je ne voulais absolument pas raconter un biopic, en fait. Quand j'ai lu les mémoires de Clémentine Delay, je me suis rendu compte qu'elle parlait très peu de son mari. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi, en fait, aimer cette femme ? Il y avait quelque chose qui m'intéressait. Je savais qu'avec un personnage aussi particulier, si j'allais inventer une histoire d'amour avec elle, elle allait m'emmener au-delà de l'amour. J'avais l'impression que Rosalie, en fait, elle interroge un peu l'humanité, finalement. Ça va au-delà d'une histoire d'amour. Donc voilà, j'ai voulu vraiment raconter, décortiquer le désir et les sentiments avec Rosalie.
J'avais appris que pour ce tournage, il y avait eu cette idée qui, je trouve très intéressante, que vous ne vous côtoyiez le moins possible avant le tournage pour qu'il y ait finalement comme un parallèle avec ce qui se passe dans le film.
Bah, qu'on ne se voit pas du tout même.
Ouais, ah, d'accord. Fait,
pas
du tout.
Pas qu'on se rencontre. Malheureusement, on présentait chacun un film au Festival de Cannes et on s'est croisés un soir sur le trottoir. On s'est dit... Oh. Et puis au moment où on se fait la bise, on se dit, oh non. Faut pas se parler, faut pas se regarder, voilà. Et on s'est dit bon bah l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on a gardé ça jusqu'au début, jusqu'au premier jour de tournage où on a fait cette scène de rencontre quand il y a le cerf. Et je trouve ça en fait vachement intéressant de procéder comme ça. Moi j'aime qu'on ait d'épouser au maximum les situations, de vivre vraiment les choses et ça apporte quelque chose à chaque fois. Enfin on le vit vraiment intensément. On a à la fois le trac, on est ému, on a plein de questions. Et donc, elle se préparait, on était dans la même maison, elle se préparait au premier étage, moi j'étais au second. et je ne savais pas ce qu'elle faisait, quoi. Et on a décidé d'éviter de se croiser. Moi, j'ai dit à la personne qui m'emmenait sur le plateau, j'ai dit, elle est partie, c'est bon, elle est là-bas. OK. Alors, j'ai suivi, et puis je suis allé me planquer, et puis dès qu'il y a eu la première prise, voilà, on a fait ça, et c'était formidable.
Oui, c'est assez dingue, parce que finalement, on s'est rencontrés dans les scènes, donc... C'est assez fou de se dire qu'on vit une petite vie dans une vie et sans vraiment se connaître en dehors et d'avoir eu une complicité qui est née dans les scènes comme les personnages. Donc c'est vrai que c'est tellement toujours... c'est génial d'avoir la chance de pouvoir s'aider de la réalité vu que la frontière, elle est quand même fragile avec la fiction. Enfin, si on peut s'aider. En tout cas, moi, ça a créé chez moi un truc où j'étais complètement déstabilisée au début. J'essayais d'attirer son attention. Enfin, je me souviens qu'il y avait quelque chose d'étrange parce que j'étais pas habituée. Et en fait, ça m'a portée en fait pour jouer, vraiment.
En fait, on a fait des scènes parfois, des scènes qui sont très fortes où j'étais là, je dis merde, j'étais trop fort. Elle a l'air totalement par terre. J'ai dû crier trop. Je la voyais encore. Voilà, c'est ouais. La scène quand t'es dans la chambre, ouais. Et que je venais, que je t'avais jeté les pièces là.
Ah, d'une violence inouïe.
J'ai dit mais ça va, j'ai pas fait mal.
T'étais vraiment terrorisée. C'était fou quoi.
Oui, mais tout ça c'est de toute façon dans l'endroit du jeu. C'est ça qui est génial, c'est qu'on avait un tel self place sur le plateau. C'est que j'étais en fait, c'est le fait de se sentir si bien sur un plateau qui fait qu'on peut aller dans ces endroits-là parce qu'on sait qu'on est en sécurité. J'avais en fait une grande confiance aussi, donc on se laisse aller à ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des scènes, je pense que, en fait, il y a des moments, même si on sait que c'est écrit, en fait, quand ça arrive, j'avais des moments où je ne savais pas ce qui allait se passer, en fait. Je rentrais et c'est des moments de jeu dont on se rappelle parce que ça crée une sorte de vertige et d'adrénaline telle parce que je me disais, mais je ne sais même plus ce qu'on tourne, quoi. Et en fait, ça c'est quand même.
Mais c'est un vrai talent de s'abandonner. C'est ça aussi, hein, de se laisser aller à, et c'est ça qui était merveilleux et chez Benoît et chez Nadia.
Alors il y avait une question là-bas.
J'avais une question à propos du scénario et plus précisément sur tous ces personnages qui gravitent autour de Rosalie et de Abel, tous ces gens qui travaillent à l'usine. Comment leurs réactions par rapport à Rosalie ont été envisagées? Est-ce que vous vous êtes fondé sur les mémoires de cette dame qui a vécu, ou est-ce que vous avez puisé dans des différents registres littéraires?
Ah non non, de Clémentine Delay, il ne reste que le café. Hein. J'ai vraiment écrit tous les personnages en me documentant sur l'époque et la région. Mais tout le reste tout a été écrit, même le personnage de Rosalie. Donc, mais c'était très important que chacun ait à sa place en fait. Et d'ailleurs, j'utilisais des prénoms exprès. Par exemple, on parle pas, mais de Jean par exemple, l'homme bon qui tout de suite la trouve belle. Voilà, il fallait quand même que que chacun ait un regard différent sur elle. Pierre, c'est l'homme que je ne voulais pas sauver, parce que j'ai toujours tendance à vouloir sauver tout le monde. Et je me suis dit, mais non, la réalité, c'est qu'il existe cette bêtise-là, qui est incarnée par Guillaume Gouix. Le personnage de Benjamin Biolay, c'est un industriel qui s'appelle Le Derlin, qui d'ailleurs avait une blanchisserie dans les Vosges, qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est le début du paternalisme social. C'est ça, le film se situe 5 ans après la guerre franco-prusse, donc on est dans un climat vraiment de suspicion, et c'est le début de la révolution industrielle et donc le début du capitalisme. Et l'incarnation par Benjamin Biolay de ce patron-là qui veut tout maîtriser, c'était très intéressant. De travailler ce désir enfoui qu'il a, parce qu'en fait il maîtrise toutes ses ouvrières sauf elle. Il y a quelque chose qui lui échappe, et je trouvais ça beau dans ce personnage aussi. Donc tous ils avaient Serge Boson, moi m'intéressait parce que c'est un metteur en scène en fait, Serge Boson, donc c'était intéressant de le prendre comme un photographe, l'homme qui observe Rosalie avec un œil bienveillant. Il y avait quelques personnages bienveillants. En tout cas, moi c'était très important qu'ils ne se connaissent pas, Benoît et Nadia. Par contre, tout le reste du casting, j'aimais bien l'idée qu'il y avait un lien avec Nadia, comme une autre famille. Donc je savais que Juliette Armanet, par exemple, c'est un petit rôle, mais c'est énorme d'aller trouver le rôle de la prostituée dans un film d'époque. Tout de suite, c'est déjà très attendu. Je savais qu'avec la présence de Juliette, en fait, parce qu'en fait, Juliette était très admirative de Nadia, elle avait vu Les Amandiers. Donc je savais qu'elle était vraiment, elle aimait le travail de Nadia. Et de la même manière, Nadia écoute en permanence la musique de Juliette. Donc je savais que forcément, il y allait avoir un échange autre qui allait se passer entre les lignes, justement. Parce que ce qu'on attend, justement, c'est autre chose que ce qu'on écrit avec des acteurs qui nous emmènent ailleurs. Donc tous ces rôles qui gravitent autour de Abel et Rosalie, voilà, ont été extrêmement travaillés, justement, pour que chacun ait une place juste. D'ailleurs, ce Jean qui est très bon, à la fin, il n'a même pas le courage d'aller la sauver quand elle se fait lyncher. Donc, ils ont tous leur petit travers. Je pense que l'être humain est très complexe, donc tous, ils ont leur part de... Voilà, de, comme nous tous, d'ailleurs.
Ah, t'es gonflé, hein. Elle m'a dit qu'en fait, Juliette, elle avait fait le film parce que c'était moi qui ai voulu travailler avec moi. Ah, d'accord. Je dis, mais c'est un petit... Ah, d'accord, mais c'est bien, c'est bien. Super. Ok. Non, un scénario, c'est toujours en mouvement. Un scénario, ça bouge en permanence. On peut faire une lecture ensemble sur une table dans la production. On est là, on essaie déjà de changer des petites choses, des petits trucs qui nous touchent ou pas. Et une fois qu'on arrive dans le décor, il y a encore une deuxième lecture qui s'offre à nous, différente. Et puis, plus on avance dans le récit, plus on avance. On a eu la chance quand même de travailler dans la continuité. Chronologiquement et tout d'un coup il y a des évidences qui se font. La relation avec le personnage de Biolay, tel que c'était écrit, tout d'un coup ça m'a emmené vers cette idée que ils ont été gamins, en fait ils étaient peut-être amis dans leur enfance à l'école communale, je sais pas. Donc il y avait ça, je me disais il y a quand même quelque chose qui reste de ça, quoi, une amitié qui a été effacée avec le temps. Mais je t'avais dit, ce serait bien que peut-être qu'il ait un geste quand il y a eu le lynchage, qu'en fait il laisse pas faire, quoi, qu'il vienne lui tendre la main pour le relever, parce que c'est, oui. Voilà, j'avais pensé à Rock Cherokee.
J'aime bien.
Voilà, quand ils étaient mômes, voilà. Bon, vous voyez. Mais voilà.
C'est tellement juste.
Alors, on a encore une question d'un public.
Une question pour Stéphanie. J'aurais aimé savoir, j'ai été particulièrement touché par les scènes dans la forêt, et j'aurais aimé savoir un petit peu vos inspirations pour faire ce style de scène.
Alors la nature, c'était très très important. Déjà, il faut savoir que, en tout cas, j'ai eu la chance de tomber sur ce village, en fait. Il faut savoir que sans ce village, c'est un village qui se situe en pleine forêt de Kénécan, au centre Bretagne. Et en fait, je n'avais pas les moyens de construire un tel décor. Et quand j'ai trouvé ce décor, qui était vide, entretenu par des propriétaires, et en fait, les forges s'étaient arrêtées en 1875, exactement la période qui m'intéressait. Et donc, c'était très important pour moi, parce qu'il y avait déjà tout, la hiérarchie, tout, c'était très important. Et en fait, ces forges, elles ont besoin de la nature, de la forêt, parce qu'il y a l'eau, la forêt et des hommes, en fait. Voilà, ce microcosme tient là-dessus, parce qu'on a besoin d'eau pour faire tourner l'usine avec la force motrice. Donc tout ça, en fait, peu de choses, mais il y avait tout. Et en fait, ce qui est fou dans le plan de la forêt, là, qui est complètement surréaliste, j'avais demandé à tout le monde d'aller s'y trouver autour du village un décor, donc on allait très loin, et en fait, la forêt est 10 mètres derrière le café. Le café, d'ailleurs, pour information, qui est l'auberge des ouvriers des forges. Le café que j'ai pris, c'était l'auberge des ouvriers. Je n'ai touché à rien. Le mur de bois, le chiffre 1800 que vous voyez gravé sur le bois, c'est d'époque. Et c'est ça où c'est fou. Souvent, moi, je ne crois pas à la reconstitution en film d'époque. Même mon premier film, La danseuse, rien n'était reconstitué. C'était du vrai. Donc, c'était très important. Et donc, cette forêt... jusqu'à 10 mètres derrière, c'était fou, quoi, parce qu'en fait, il y avait un lit de mousse qui recouvrait sur des centaines de mètres, il y avait de la mousse. Et ça crée au son quelque chose de différent, et une atmosphère différente. Et il y a ce soleil, ce matin-là, alors qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Bon, désolée, mais c'est une réalité. Et quand on sortait, en fait, tout d'un coup, il se passait ça pour le film. Donc, c'est quand même fou. Il y a même un arc-en-ciel dans le film. Quand elle est heureuse et qu'elle assume pleinement sa barbe et qu'elle est de dos, on voit un arc-en-ciel. Donc, ça fait partie de la magie des films, en fait, heureusement, qui nous arrive, avec, parce que c'est beaucoup de souffrance aussi et de complexité à arriver à quelque chose. Mais il y a ça aussi avec nous, heureusement. Et voilà, et cette nature autour était. Mais la nature dans le centre-Bretagne est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est très important puisque ce personnage, finalement, va connaître le plaisir seul pour la première fois. Elle va se révéler seule dans cette nature où, au moins, elle se sent préservée. À l'abri, en tout cas, de la cruauté des autres. Donc, oui, c'était très important, la nature. Et le son, j'ai fait un travail sur le son. Énorme, grâce aussi à Nadia et Benoît qui donnent des choses, mais d'un détail inouï de précision. Le souffle d'Abel au début, on n'entend que lui. L'idée c'était que ça grince avec sa ceinture, qu'en fait il est tellement détruit que son corps grince en fait. Et Nadia au début du film, on ne l'entend pas. Elle respire pas au début. Elle est jeune, elle a un truc de jeune fille. Puis tout d'un coup, en devenant femme avec cette barbe, on va l'entendre de plus en plus dans le son. Tout ça, c'est un travail, parce que je pense à la nature, à l'eau, à tout ça, c'est pareil, à la respiration. Tout ça, c'est des choses en fait essentielles. Il y a très peu de dialogue dans le film, c'est presque un film muet. Hein. Moi, je leur disais surtout. Si vous voulez, si vous ne sentez pas les dialogues, je ne tiens pas du tout au dialogue, en fait. Parce qu'un regard, ce sera toujours plus fort, un geste. Et du coup, voilà, donc tout ça participe à la vérité du film. Parce qu'il fallait croire à tout, et même au décor. C'est pour ça qu'en voyant ce décor, je me suis dit, ah, peut-être que le film va être possible.
Moi, je pensais que, justement, tu parles de nature, je pensais qu'Abel était, par cette nouvelle passion d'être taxidermiste, donc passer beaucoup de temps dans ces forêts. Il y a des centaines d'hectares sur cet endroit. Et un lundi matin, en arrivant sur le plateau, je vois tous les techniciens qui ont des sacs remplis de cèpes, plein de champignons et tout. Je me dis, mais vous avez trouvé ça où? Il me dit, là, ce week-end, on est allé avec la pluie, ça pousse comme ça. Paf. Je dis, oh putain, si moi mon rêve. Et je dis, pour le travail d'acteur, pour le rôle d'Abel, je vais aller à la pause déjeuner, aller chercher des cèpes. Et je me suis perdu. Et donc une heure passe et il s'appuie où je suis. Il n'y a pas de réseau. J'ai disparu.
C'est vrai. On a perdu Benoît.
Deux heures, je trouve une petite route de campagne avec mon téléphone comme un idiot. Et finalement, j'ai vu un autostoppeur. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas m'amener aux forges et tout. Il m'a ramené. Imaginez l'état de panique dans lequel ils étaient. J'ai dit, mais c'est pour mon personnage que j'ai fait ça. C'est pour le travail, comprenez. Et j'en ai pas trouvé un seul champignon. Ils avaient tout raflé, en fait, tout le week-end. Mais la bêtise, quoi.
Merci. Bravo pour ce film. J'ai pas les mots. Incroyable, d'une beauté, mais phénoménale. Justement, parler de décor, je suis Lorraine. Vous parliez des Vosges. Vous avez pas tourné dans le théâtre de Busan, le dernier cauchemar?
Évidemment, c'est ça. Évidemment. Hein. Parce qu'en fait, au tout début, vu que je voulais visiter les Vosges, voir les Vosges, parce que c'était évidemment la région de Clémentine Delay. Et en fait, je suis tombée sur ce théâtre qui est juste mais magnifique de Busan. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un industriel qui fabrique des couteaux qui va à Paris en 1870, la même période, et qui découvre les grands boulevards. Et il se dit, mais pourquoi mes ouvriers n'auraient pas le droit au théâtre? Il retourne chez lui et il fait construire ce théâtre en bois près de son usine. Déjà, je trouve ça juste fantastique. Et ça existe, des gens comme ça, tant mieux. Et en fait, du coup, quand je suis allée en Bretagne, quand j'ai trouvé mes décors en Bretagne, je n'arrivais pas à oublier ce théâtre. Je me suis dit, pour Clémentine Delay, qui m'a inspirée, c'est la moindre des choses. Et c'était une très mauvaise nouvelle pour la production, parce que pour cette scène, on a dû juste aller à l'autre bout de la France pour tourner cette scène. Mais c'était essentiel, il y avait quelque chose de fort. Alors on était en équipe réduite, on était à peine 15. Il faisait moins 10, elle a dansé sans chauffage, sans rien, c'était encore une épreuve. Et du coup, voilà, et ça participe à cette scène qui est très primordiale pour le film.
J'avais une question pour Nadia, parce qu'une chose qui est très réussie dans le film, c'est votre barbe, votre pilosité. J'aimerais bien que vous nous expliquiez la technique, parce que ce n'est pas du tout une fausse barbe qu'on colle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes... transformée pour ce rôle?
En fait, c'est vraiment la technique d'une spécialiste. C'est une artiste, elle s'appelle Mélanie Gerbeau, et elle est spécialiste du poil à poil. Donc, en fait, c'est une méthode qui fait que, finalement, on l'oublie. Enfin, on l'oublie pas quand on la met parce que ça dure longtemps. Mais après, par contre, dès que j'arrivais sur le plateau, je l'oubliais. Et en fait, ça fait comme une seconde peau parce qu'on peut pas... En fait, on...
Précise, les poils sont collés un par un sur sa peau. Ça. Donc, elle se lève à 3 heures du matin et ça dure 4 heures de préparation. C'est une, voilà, c'est... Non, mais parce que c'est important.
Et on ne peut pas dormir avec, on est obligé de recommencer.
Non, c'est ça, mais
jours.
En fait, au final, moi, ça m'a donné une sorte de rituel le matin parce que j'avais le temps pour rêvasser, en fait. Je ne prenais pas mon téléphone, donc du coup, j'avais le temps pour penser aux scènes de la veille, les scènes du lendemain, les scènes qui arrivaient. Et quelque part, c'était c'est comme un, oui, c'est un rituel pour se mettre dans le personnage, parce que pour le coup, Rosalie, elle ne pouvait pas exister sans le corset qui me donnait la posture, la coiffure qui était en fait très lourde. Je crois que c'était le truc le plus compliqué, c'était la coiffure. Et comme il fallait qu'elle corresponde, en fait, elle, je me suis raconté qu'en fait, elle a besoin de se prouver, et, non, de prouver aux autres qu'elle est femme, donc il fallait trouver une sorte de féminité qui correspondent au code de la société. Donc, il fallait une grâce, il fallait trouver une posture, il fallait qu'elle... en fait, tout ça, les fleurs, etc., c'était comme si elle en faisait trop pour être femme pour les autres. Et tout ce processus-là, voilà, il fallait ces 4 heures, quoi. Et comme ça, quand j'arrivais sur le plateau, ben, j'avais pas à douter du personnage, quoi.
Ce que Nadia ne dit pas, c'est qu'elle vivait dans le décor. Il n'y avait pas d'eau chaude, donc elle chauffait l'eau à la marmite au feu de bois. Une fois, elle m'a invité à dîner, elle m'avait préparé de la soupe dans sa marmite. Non, elle a vécu des choses extrêmement difficiles. Stéphanie, elle habitait aussi dans le décor. Elle avait une centaine de marches en pierre à monter.
C'est vrai, en plus.
Jusqu'en haut, donc tous les soirs, après le tournage, je la voyais monter péniblement. Elle s'éclairait à la bougie. Vous voyez, c'était donc elles ont vécu quand même ce tournage vraiment. Bon, moi j'avais une maison tout confort.
Au moins t'es honnête.
Voilà, ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir dans le décor vivre? J'ai dit non.
Oui, enfin moi j'avais demandé. Non, on avait demandé, mais parce que comme je me levais à 3h, si j'avais une heure de route, parce qu'on était à une heure de route de toute habitation, donc du coup. Moi, je préférais, enfin, au départ, j'avais dit que je préférais dormir sur place. Mais j'avoue qu'on est allé à Pontivy, enfin, on est retourné sur le décor là il y a 2 jours, quand on est arrivé avec Stéphanie. Ouais, et en fait, on s'est dit, mais tout ce qu'on a traversé émotionnellement, je pouvais rien regarder. J'étais dans un état et on a fait la presse dans le café. J'étais comme ça. C'était tellement étrange parce que je pense qu'en fait, même si on a, enfin, ça nous impacte, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait impacté. Ces lieux, ils sont chargés. C'est un endroit qui est, parce que authentique, très chargé, habité. Il y a une âme, il y a un truc.
Non, mais ce qui était aussi fabuleux dans la façon de tourner, c'est qu'on a tourné dans l'ordre chronologique. Donc le luxe de tourner dans l'ordre chronologique, plus d'être dans un lieu unique où tout fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, si on avait envie d'aller à l'église, l'église était présente. Elle n'est pas ailleurs, à 200 km. Tout était là, donc sur place. Donc c'était très, très agréable, ça. De se dire même, de corriger, peut-être de refaire une scène où je me disais, ah, peut-être chaque jour était surprenant. Chaque jour, on avançait dans leur rapport. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il manquait quelque chose là. Donc on revenait sur certaines choses. Et ça, c'était possible grâce au décor. Et le fait de vivre là-bas aussi permettait une grande réflexion dans les lieux, pour le découpage. C'est très agréable, en fait, de pouvoir travailler comme ça. C'est rare pour un film d'époque, parce que souvent, dispatché dans différents endroits, donc vraiment c'était très agréable.
Enfin, à la fin du repas, je lui demande, c'est où les toilettes? Elle me dit, bah, y a un pot de chambre, si tu veux. Je dis, bah non, je vais rentrer à la maison.
Et ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que le café où vous avez tourné, vous y êtes donc retourné, ils l'ont décoré avec des photos du film.
Ouais, c'est très touchant, très très touchant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà, vers le milieu. Ah bah voilà, ici, il y en a une.
Oui, donc bonsoir à tous, Franck Junior de l'agence Max Lava. J'avais une question très simple, c'était par rapport à la préparation. Combien de temps est-ce que vous avez mis à rentrer dans le personnage et comment est-ce que ça s'est déroulé pour la préparation?
Pardon, la préparation
La préparation en amont, en fait. Combien de temps vous avez mis à rentrer dans le personnage ou c'était directement sur place? Vous êtes rentré directement sur place dans le personnage?
En fait, on a mis presque 3 mois, je crois, pour trouver la barbe, la coiffure, la robe, parce que c'était aussi, on avait 3 robes faites sur mesure, donc c'est un vrai travail pour trouver aussi. Et puis la barbe, il fallait trouver déjà l'évolution et puis comment elle allait fonctionner, parce que quelques minutes près, comme je disais, ça change tout. Et puis si j'avais les cheveux lâchés, enfin ça ne marchait pas du tout. En fait, il fallait vraiment que tout soit là. Et du coup, en fait, c'est marrant, c'est en cherchant l'aspect physique qu'on a cherché le personnage, en fait. Enfin, moi, je sais que quand on est arrivé sur le plateau, en fait, j'avais déjà une sorte de sensation. Après aussi, je ne m'attendais pas à être autant troublée par le fait d'avoir les poils. C'est vrai que ça m'a vraiment déstabilisée. Et j'ai eu honte au début du tournage, mais vraiment une honte que je m'étais... On a beau se préparer et s'imaginer comment on va jouer les choses, en fait, on ne contrôle pas. Et j'étais mal dans mon corps, quoi. Et donc ça, j'ai dû le combattre en parallèle et je n'y attendais pas. Et en fait, ça crée du jeu. J'ai utilisé ça pour être Rosalie. Je me suis dit, Rosalie, elle se bat comme ça parce qu'elle est mal aussi. Voilà. Mais parce qu'en plus, je ne voulais pas montrer, vu que c'est quand même l'idée du travail d'acteur de ne pas avoir honte et tout ça. Donc du coup, je le cachais. Et voilà, donc il y avait un travail parallèle, quoi.
On a mis du temps à faire le film, hein. Il s'est passé quand même une bonne dizaine de mois entre le moment où on s'est parlé et qu'on a tourné. Donc dans ces moments-là, c'est formidable parce que, comment expliquer, pendant tous ces mois, en fait, il y a une sorte de réflexion inconsciente. En tout cas, vous portez ce personnage avec vous. Et il y a des moments où tout d'un coup, il y a des choses qui vous apparaissent et puis vous vous racontez l'histoire d'avant. Moi, j'aime bien me raconter le parcours d'un homme, sa naissance, où il a grandi, la guerre. Vous voyez, pour nourrir les choses qu'on verra pas dans le film. Et puis c'est vrai que quand cette pilosité, je me souviens, elle n'osait pas me regarder, moi je n'osais pas la regarder aussi. On avait énormément de gêne tous les deux dans ces premières scènes, quoi. Et c'était extrêmement difficile. Tu te souviens,
Stéphanie? Ouais, c'était super. J'aimais bien ça. Je vois, tu disais, mais par quel chemin je vais passer? Je trouvais ça très beau comme façon d'élaborer le personnage, quoi. Évidemment pour arriver à l'amour, pas pour de manière physique, mais voilà, comment je vais arriver jusqu'à elle, vraiment. C'était chaque scène, en fait, c'est ça. Chaque scène dit ça.
Voilà. Et ça permet, le temps, en fait, cette gestation permet de faire le parcours du personnage. Ça vous permet de finir par accepter les choses. Ce qui est magnifique, c'est les actes qu'elle pose pour Abel. Ce qui fait qu'il va regarder au-delà des apparences et se rendre compte qu'en fait, c'est des actes d'amour et que tout ça, ce sera secondaire, en fait. Mais au départ, c'est la trahison, le fait d'avoir... Parce que comme c'est un type qui est complètement détruit, c'est presque Quasimodo pour moi dans sa tête. Hein. Il se cache, il est toujours... Il s'isole. C'est pour ça que son café ne marche pas, quoi. Il ne fait pas happy hour tous les jours, quoi.
Non, mais ce qui est aussi dans le film, ce qui était intéressant, c'est que la vraie mise à nu, finalement, c'est le personnage d'Abel qui se met à nu. C'est pas elle. Elle n'a pas peur, en fait. Elle n'a pas peur. Elle sent que ça lui donne une force, justement, cette barbe. Alors que, finalement, le personnage d'Abel, c'est lui qui doit, finalement, à la fin, prouver qui il est et se trouver aussi lui-même et se retrouver. Puisqu'en fait, quand il dit au début déjà mort, il parle de lui. C'est pas le cerf dont on parle, c'est de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui croit plus en rien. Il est complètement brisé. Donc, voilà.
C'est pour ça qu'il la comprend bien, quoi. C'est pour ça qu'il lui dit, ils vont se moquer de vous. Ils rentrent de la guerre. Moi, je m'étais mis ça dans la tête que il est plus le même homme qu'il était avant de partir. Donc, les gens vont se trouver curieux. Ce type avec ce harnais, avec cette façon qu'il a. Donc. Il la comprend à travers ses différences, quoi. Finalement, ils sont pas si éloignés que ça.
Et moi, c'est en voyant le film que j'ai compris ça, parce que quand on l'a tourné, je trouvais ça hyper injuste et je trouvais Abel injuste et sa réaction hyper violente. J'étais complètement dans mon personnage en réaction, quoi. Et quand j'ai vu le film, j'ai réalisé à quel point, en fait, elle était intrusive aussi et qu'elle avait déjà qu'elle l'avait trahi. Moi, j'avais même pas compris qu'elle l'avait trahi. Enfin,
commence par un mensonge.
Oui, c'est ça. Moi, pour moi, c'était pas. Et en fait, quand j'ai vu le film, j'ai compris en fait que c'est plus compliqué que ça. Du coup, c'est deux personnes qui se sentent trahies à un endroit différent. Et j'aimais bien le fait que ça soit qu'il y ait pas de que les deux ont besoin de réconciliation à un endroit et d'un regard nouveau. Et de, mais tout ça, je l'ai vu après.
Oui, puis il se sent trahi doublement parce qu'il comprend qu'en fait, elle a juste envie de faire un enfant, quoi. Il a l'impression qu'en fait, il est là pour lui donner un enfant et puis après, c'est terminé, quoi. Donc, il y a la trahison de ce qu'elle est vraiment et puis le fait qu'il se dit, au fond, elle ne me désire pas, il n'y a rien entre nous, quoi. Elle m'utilise, en fait. Donc, vous voyez, tous ces sous-textes-là, on les comprend, on les vit à l'intérieur. Donc, incarner un personnage, c'est ça qui est bon. C'est difficile de faire autrement que de s'identifier à lui, quoi. On a besoin de s'identifier. On dit toujours... rentrer dans la peau d'un personnage, mais souvent c'est vous qui tirez ce personnage dans votre peau, quoi. Il faut l'avoir avec soi, quoi. Et c'est comme ça que c'est enfin, comme j'aime bien travailler, qu'on aime travailler, je crois.
Alors on a le temps pour une dernière question, et j'avais vu voilà une main
bonjour.
Se lever par là. Voilà.
Bonjour. Merci beaucoup pour commencer. Moi, j'avais une question, non pas sur votre barbe, Nadia, mais sur les barbes des hommes. Parce que je voulais savoir s'il y avait une explication sur le fait qu'il y ait très peu d'hommes qui ont des barbes dans le film, ou pas du tout, si c'est un hasard, ou voilà.
Bah. Non, en fait, on s'est vraiment posé la question. On s'est beaucoup posé la question parce que...
On s'est posé là-dessus, moi je te coupe, mais on s'est dit, si je porte une barbe, on va s'en mêler, on va s'accrocher.
C'est vrai.
Non, mais n'empêche, c'est la première chose que tu m'as demandé, est-ce que j'ai une barbe ? C'était fou. J'ai trouvé ça fou. Et c'est une bonne question, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, la barbe de Pierre, elle est très présente. C'est inconscient, les films. Et c'est lui qui veut exister. Et c'est intéressant, c'est la seule qui ressort. Mais à l'époque, le problème, c'était que tout le monde portait des barbes. Et je voulais qu'il n'y ait pas trop de barbes, puisque je voulais que ce soit celle de Rosalie. Donc, il y a eu un vrai débat là-dessus. Mais c'est une très bonne question. En tout cas, celle qui est la plus agressive, celle de Pierre, il y a quelque chose où assez puissant dans celle de Pierre. Alors que Jean, lui, est pur. Mais je ne sais pas, en tout cas, je ne me suis même pas posé trop la question, en fait, tellement celle de Rosalie nous a pris beaucoup, beaucoup de temps à mettre au point.
J'ai essayé de négocier une moustache. Dis non, non, non.
Merci beaucoup, on était très honorés de
merci
vous recevoir.
Merci.
Cet échange a été enregistré au Forum des Images à l'occasion de la séance du Club Allociné pour Rosalie en compagnie de Stéphanie Di Giusto, Nadia Tereskevich et Benoît Magimel le 20 mars 2024. Rosalie est actuellement au cinéma. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser quelques étoiles. À bientôt pour de nouveaux podcasts.
Allociné.